Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Raissa Girondin avec vous, il est 18h30 en temps universel, la même heure à Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir, voici les titres. Présidentielle malienne, au lendemain de l'annonce de la victoire du président Ibeka, Soumaïla Cissé continue de rejeter les résultats et se déclare vainqueur. Au Burkina Faso, une nouvelle attaque armée dans l'ouest du pays a fait 2 morts et 5 blessés. Un nouveau bilan de l'épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo fait état de 44 morts sur 78 cas. Dans nos dossiers du jour, le président gabonais Ali Bongo veut réformer l'éducation.
En 2013, il avait fait le même constat en prévoyant en urgence de construire 400 salles de classe. Aucune classe n'a été construite.
Et la Turquie rejette un nouvel appel à libérer le pasteur américain Branson. Dans la Minute Éco, le caoutchouc ne fait plus recette en Côte d'Ivoire, pourtant le premier producteur africain. Et la 5e journée de la Ligue africaine des champions avec la victoire du Oroya Conakry dans la page sport. Mais tout d'abord, le journal. Au Mali, au lendemain de la publication des résultats officiels provisoires du second tour donnant vainqueur le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, l'opposant Soumaïla Cissé continue de rejeter les résultats. Il a tenu un point presse à Bamako où nous retrouve sur place Kassim Traoré, notre correspondant VOA Afrique. Kassim, bonsoir.
Bonsoir.
Donc Soumaïla Cissé se déclare vainqueur avec 51,75% des suffrages.
Oui, Soumaïla Cissé vient de faire l'annonce sur la base d'une compilation de sa propre base de données. Il dit avoir été volé, mais il dit aussi qu'il va se battre pour avoir sa victoire, pour arracher sa victoire. D'après ces jeunes, ils ont fait la compilation sur la base des résultats sortis des urnes et des résultats qu'ils qualifient de non-bourrage, ce qui crédite leur candidat avec 51,75% contre 48,25%. Les jeunes venus massivement écouter le président comme la presse ont posé beaucoup de questions. Soumaïla Cissé se rassure et dit aussi qu'il va continuer la contestation en se basant sur les voies recours au niveau de la Cour constitutionnelle. Une bagatelle de requêtes a été introduite par le candidat Soumaïla Cissé. Il aussi va faire une grande mobilisation demain matin à 8h30 sur le boulevard de l'indépendance afin de continuer la contestation. Ici à Bamako, plusieurs jeunes ont pris part à cette conférence de presse, même si elle était réservée à la presse, et se disent confiants à la confiance, disons, en les propos tenus par leurs champions.
Merci beaucoup pour ce point, Kassim Traoré, correspondant VOA Afrique à Bamako. Lancement ce vendredi en Mauritanie de la campagne pour les élections législatives et locales du 1er septembre. Cette fois, l'opposition radicale qui avait boycotté ces derniers scrutins il y a 5 ans a décidé d'y prendre part. Alors, le président Mohamed Ould Abdelaziz, chef de l'Union pour la République, a appelé à un vote massif pour sa formation pour, dit-il, continuer sur la voie des réalisations grandioses. L'opposant Ahmed Ould Dada a lui demandé aux Mauritaniens d'effectuer le sursaut nécessaire pour balayer ce qu'il qualifie de régime de la dictature. Le président malgache Héry Rajaou Narimanpian a annoncé sa candidature pour un deuxième mandat lors de la présidentielle prévue pour le 7 novembre. Le chef de l'État, âgé de 59 ans, devra notamment affronter 2 opposants et anciens présidents, Ange Rajol et Marc Rava Lomanana. Pour le moment, 13 dossiers de candidature ont été déposés à la Haute Cour constitutionnelle. La date de clôture des dépôts de dossiers est fixée au 21 août. Au Burkina Faso, un autobus d'une compagnie minière a été attaqué ce matin par des hommes armés non identifiés dans l'ouest du pays, faisant au moins 2 morts et 5 blessés. Bagassi Koura.
Selon un témoin, un chauffeur et un agent de la société minière ont été tués. Parmi les blessés, l'un des 2 policiers qui escortaient le véhicule, ainsi qu'un agent de la mine. Selon les médias locaux, le véhicule transportant des travailleurs de la compagnie Semafo est tombé dans une embuscade vers Warkoy, dans l'ouest du pays. Selon les premières informations, l'embuscade aurait été tendue par au moins 5 individus armés non identifiés ce vendredi matin sur l'axe Dédougou-Bobo-Dioulasso. La semaine dernière, un véhicule transportant des travailleurs d'une mine d'or avait sauté sur un engin explosif artisanal dans l'est du pays, faisant 6 morts, dont 5 gendarmes.
Les forces armées de la République démocratique du Congo ont annoncé des offensives menées cette semaine contre des groupes armés rebelles dans les provinces orientales du Nord Kivu et de l'Ituri. Les forces armées affirment avoir repris 4 localités, Maunga, Masekeseke et Kageri et Kasugo. Le bilan de 10 morts, plusieurs blessés côté ennemi, un mort et 2 blessés du côté des forces armées de la RDC. En Namibie, Joseph Kabila, le chef de l'État de la République démocratique du Congo, s'est exprimé pour la première fois depuis la désignation de son dauphin. Il a pris part au sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe à Windhoek. Après avoir rejeté tout chantage quant à la présidentielle de décembre, il a conclu avec un « je ne vous dis pas adieu, mais je vous dis à bientôt ». Fin de citation. Pour rappel, il a désigné la semaine dernière un candidat de la majorité pour lui succéder après 17 ans au pouvoir. Et nouveau bilan de l'épidémie d'Ebola en RDC, on totalise désormais 78 cas enregistrés dans l'est du pays où la fièvre hémorragique a déjà fait 44 morts. Morgane Guerriec.
Les autorités congolaises font état de 2 décès de cas confirmés à Beni et de 5 nouveaux cas confirmés à Mabalako, dont un employé du centre de santé de référence de Mangina. C'est dans ce village rural, à 30 km au nord-ouest de Beni, que l'épidémie a été signalée après le décès de 6 personnes de la même famille. Sur les 78 cas de fièvre Ebola signalés, 51 sont confirmés et 27 autres sont jugés probables, selon les autorités sanitaires, qui précisent que 24 cas suspects sont en cours d'investigation. Ce nouveau pic de l'épidémie est particulièrement surveillé par les autorités congolaises et l'Organisation mondiale de la santé. Le docteur Robert Redfield, directeur du Centre américain de contrôle et de prévention des maladies, a même fait le déplacement. Il a été reçu par le ministre congolais de la Santé pour évoquer des programmes de formation pour les épidémiologistes de terrain. Cette nouvelle épidémie d'Ebola a déjà fait 44 morts, dont 41 dans la province du Nord Kivu.
Et au Niger, le trafic routier est fortement perturbé dans le nord du pays après des dommages causés par des fortes pluies sur les principaux axes. Selon le maire d'Agadez, Rissa Feltou, les perturbations sont occasionnées par l'effondrement d'un pont sur la route d'Agadez à Arlit, provoqué par une crue du Koritelwa, en cours d'eau temporaire. Et en Ouganda, l'épouse et l'avocat de la pop star devenue députée Bobby Wine ont affirmé que les forces de sécurité du pays l'ont piégé et frappé sous le coup d'une procédure pour possession d'armes. Tout ceci est un montage des militaires. Bobby n'a jamais possédé d'armes, a réitéré sa femme.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et l'actualité dans le reste du monde, la Turquie a maintenu vendredi l'assignation à résidence d'un pasteur américain en dépit de nouvelles menaces de sanctions des États-Unis qui ont mis à mal la livre turque et auxquelles Ankara a promis de répliquer. Nicolas Pinault nous en dit plus.
Le pasteur Branson a été placé le mois dernier en résidence surveillée après plus d'un an et demi d'incarcération. Ankara l'accuse d'espionnage et d'activités terroristes, ce qu'il dément. Un tribunal d'Izmir a rejeté à nouveau aujourd'hui un recours du pasteur Andrew Branson, dont le sort est au cœur de cette grave crise diplomatique entre Ankara et Washington. Cette décision survient au lendemain de nouvelles pressions américaines. Le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, a prévenu que Washington prendrait des sanctions supplémentaires si Ankara ne libérait pas le pasteur Branson. Ces menaces ont été balayées par Ankara ce vendredi. Nous avons répliqué en accord avec les règles de l'OMC et nous continuerons de le faire, a déclaré le ministre turc du commerce, Rouchar Pekkan, cité par l'agence étatique Anadolu. Alors que la crise diplomatique ne montre aucun signe d'apaisement, la livre turque, qui a pourtant repris des couleurs cette semaine après une spectaculaire débâcle, piquait à nouveau du nez ce vendredi.
Les États-Unis ont annoncé vendredi des sanctions contre 4 commandants et 2 unités militaires de Birmanie en les accusant d'implication dans le nettoyage ethnique des musulmans Rohingyas. Les forces de sécurité birmanes sont impliquées dans de violentes campagnes contre des minorités ethniques à travers la Birmanie, a déclaré le secrétariat américain au Trésor dans un communiqué en annonçant les sanctions contre des unités et des dirigeants supervisant ce comportement atroce. Le défilé militaire souhaité par le président américain Donald Trump, qui devait avoir lieu le 10 novembre 2018, a finalement été reporté. Nous avions à l'origine pensé au 10 novembre pour cet événement, mais nous nous sommes mis d'accord pour examiner les possibilités en 2019. C'est ce qu'explique un communiqué du Pentagone. L'organisation de ce défilé militaire aurait coûté 90 millions de dollars, ce que le président Trump juge trop élevé. Au moins 18 djihadistes du groupe État islamique ont été tués dans un raid aérien visant leur dernier bastion de l'Est de la Syrie, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'OSDH n'était pas en mesure de dire si ces raids ont été menés par l'aviation de Bagdad ou par la coalition internationale dirigée par Washington. L'armée irakienne a, elle, annoncé dans un communiqué avoir tué des éléments de l'État islamique dans un raid aérien en Syrie, ciblant une cellule de commande des djihadistes. Le Comité des droits de l'homme de l'ONU estime que le Brésil doit autoriser Lula da Silva à participer à l'élection présidentielle d'octobre. Ce comité d'experts demande au Brésil de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à Lula d'exercer ses droits politiques depuis sa prison. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
En Côte d'Ivoire, le caoutchouc ne fait plus recette à cause d'une surproduction mondiale et des surtaxes prélevées par l'État. En 10 ans, les éveillaculteurs ivoiriens ont vu leurs revenus divisés par 5. Le pays compte actuellement près de 160 000 producteurs et produit 60% du caoutchouc d'Afrique et pointe au 7e rang mondial. Les prévisions pour 2018 atteindraient 720 000 tonnes et encore une augmentation de 20% dans les 3 prochaines années. Mais malgré cette hausse constante, les revenus individuels baissent et atteignent à peine 1 000 dollars la tonne. La société immobilière burkinabé Gelpass Imo veut construire 50 000 logements abordables au Liberia. Le pays fait face à une grave pénurie de logements. Plus de 60% de la population urbaine vit dans des bidonvilles et le taux d'urbanisation est de 3,20%. L'Autorité nationale de l'habitat, la NHA, estime que 500 000 logements seront nécessaires d'ici à 2030.
Et c'est la musique d'ambiance qui annonce le sport. Bonsoir Yacouba Ouédraogo.
Bonsoir Aïssa et bonsoir à tous.
Alors la 5e journée de la Ligue africaine des champions a débuté aujourd'hui.
Tout à fait Aïssa, le Oroya AC a réalisé une bonne opération en battant l'AS Togo pour 2-1 au stade du 28 septembre à Conakry. L'international burkinabé Okansé Mandela a ouvert le score pour les locaux à la 11e minute. L'égalisation togolaise est intervenue à la 51e par Amblavi Djadja, j'espère bien que je prononce bien, puis les Guinéens sont revenus à la charge 8 minutes après grâce à Boladji Simeon Sakine. Bolder donc pour le Oroya qui garde ses chances de qualification dans le groupe C en attendant le choc entre le WAC et le Mamelodi Sundowns à Casablanca. L'AS Togo pour lui est éliminé. À suivre aussi ce soir, Espérance de Tunis à l'Ali dans le groupe A. Un match entre deux anciens vainqueurs et favoris au titre cette saison. L'autre rencontre du jour opposera l'Entente Sétif au TP Mazembe déjà qualifié.
Et cette 5e journée se poursuivra demain, Yacouba.
Oui, Raissa, El Jadida tentera de donner du sourire à ses supporters devant le MC Alger. L'étoile sportive du Sahel, déjà qualifiée, jouera le 1er agosto. Les Ougandais de Kassissié feront face au Township Rollers. Il reste encore 5 places à prendre pour les cas.
Alors, en Europe, la Serie A reprend demain avec les débuts très attendus de Ronaldo.
Et oui, c'est en tant que titulaire que Cristiano Ronaldo va découvrir le championnat d'Italie sur le terrain du Chievo Vérone. Dauphin de la Juventus, la saison dernière, Naples débute à Rome face à la Lazio. Le retour de Carlo Ancelotti sur un banc italien près de 10 ans après son départ de l'AC Milan est l'une des autres attractions de la saison. L'Inter Milan, qui a réussi un recrutement impressionnant, fera son entrée en lice dimanche sur la pelouse de Sassuolo. La Ligue a par ailleurs annoncé le report des matchs AC Milan-Genoa et Sampdoria-Gênes-Fiorentina après l'écroulement d'un pont autoroutier mardi dernier à Gênes qui a fait au moins 38 morts.
Et une autre mauvaise nouvelle, Kevin De Bruyne quitte les pelouses pour 3 mois.
Ouais. Le milieu de terrain vedette de Manchester City sera absent 3 mois après s'être blessé au ligament latéral du genou droit. Le milieu belge de 27 ans s'est blessé à l'entraînement. Il devrait donc faire son retour probablement mi-novembre et pourrait donc participer aux dernières journées de la phase de groupe en Ligue des Champions.
Merci Yacouba Ouédraogo.
Merci à vous.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, à présent les dossiers du jour. Crise de l'éducation au Gabon. Dans un discours, le président Ali Bongo a jugé l'éducation au Gabon sinistrée et annoncé vouloir révolutionner le système éducatif. Le président de la Confédération syndicale Dynamique Unitaire, Jean-Rémy Yama, demande au chef de l'État Ali Bongo d'agir pour sauver le secteur éducatif gabonais plutôt que de s'évertuer à constamment faire le diagnostic. Herman Ongbo a joint Jean-Rémy Yama.
En 2013, il avait fait le même constat en prévoyant en urgence de construire 400 salles de classe. Aucune classe n'a été construite. L'année dernière, en 2017, pour 2018, au plus tard à mars 2018, il avait prévu également aménager des écoles, des salles de classe avec des équipements en ordinateur et tout le reste. Alors donc, rien n'a été fait. Mais ce qu'on retient seulement, c'est que depuis qu'il est au pouvoir, il n'a jamais construit une seule salle, enfin, aucune école, aucun lycée. Et donc, on ne peut pas être performant. Si nous sommes 150 dans une salle de classe, le plus important, ce n'est pas de déclarer le sinistre, c'est d'apporter des solutions pour régler le sinistre. Et à ce niveau, je crois que c'est sa responsabilité d'apporter des solutions. Sa responsabilité, ce n'est pas seulement de diagnostiquer.
Mais qu'est-ce qui empêche la construction de ces écoles, à votre avis?
Ah ben, ça, c'est à lui qu'il faut poser la question. C'est lui qui gère le budget de l'État. C'est à lui. C'est lui qui, selon les dires des ministres du budget, et qui a géré plus de 3 000 milliards en investissement. C'est lui qui décide, par exemple, d'organiser une CAN ou deux CAN en l'espace d'un mandat, au lieu de construire les écoles. C'est lui qui fait le choix, c'est lui qui gère le budget. Donc c'est à lui qu'il faut poser les questions pour savoir qu'est-ce qui... D'ailleurs, essayer de réécouter tous ses discours s'agissant de l'éducation, et posez-lui la question, pourquoi est-ce qu'il ne construit pas les écoles?
Monsieur Yama, l'efficacité du secteur éducatif ne dépend pas simplement des salles de classe ni des écoles. Il y a également la qualité de l'enseignement.
Sauf à démontrer que nos enseignants ne sont pas correctement formés. Hein. Je crois que l'ENI qui forme nos instituteurs et l'ENES qui forme nos professeurs sont des établissements de renom. Mais on les forme, nos instituteurs et nos professeurs, pour qu'ils soient dans une classe au maximum de 40 élèves ou 50 élèves tout au plus. Mais un instituteur formé pour 40-50 élèves, si vous mettez 150 élèves, vous pensez qu'il va se comporter comment? Il y a peut-être que 10 ou 15 qui vont suivre. Et donc la conséquence, ce sont les échecs.
Monsieur Yama, les étudiants gabonais sont boursiers, mais visiblement ne donnent pas de bons résultats selon le chef de l'État. Comment l'expliquez-vous?
Mais justement, tout est lié. Vous savez, depuis 2007, on a annoncé la création de 3 universités. Et il y a même eu des budgets, selon la loi de finances, qui ont été mis en place. Mais il n'y a aucune université qui est sortie de terre. On a annoncé énormément d'établissements universitaires, mais aucun établissement n'a vu le jour.
C'était Jean-Rémy Yama, le président de la Confédération syndicale Dynamique Unitaire, joint à Libreville.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Et en République démocratique du Congo, 78 cas de la fièvre hémorragique Ebola ont été déclarés dans l'est du pays avec 44 décès selon les autorités sanitaires congolaises et l'OMS. À Goma, une ville d'1 million d'habitants, les agents de santé ont mis sur place des dispositifs sanitaires et des mesures d'hygiène afin de contrôler la maladie. Des précisions avec Blanche Sanou.
Goma, une ville située à plus de 350 km au sud de l'épicentre de la ville de Mangina, dans la province du Nord Kivu. Ici, le moyen de transport populaire reste les mototaxis. Face à l'épidémie d'Ebola, les autorités sanitaires tentent de minimiser les risques de contamination au sein de la population.
Cette maladie appelée Ebola est déjà proche de nous, donc les clients ne portent pas de casque. On nous a dit que cela pouvait se propager par la sueur et que nos casques sont portés par différents clients. Nous avons donc été autorisés à transporter des passagers sans casque pour empêcher le virus d'Ebola de se propager.
Des postes de lavage des mains ont été installés au coin des rues. Selon les responsables sanitaires, il faut à tout prix que les résidents soient protégés.
Pour prévenir la maladie, j'ai dit à toute la population de Goma et aux environs de bien être vigilants, à se laver les mains parce que la maladie est là et peut arriver à Goma en provenance de Beni par les mouvements transfrontaliers.
Le Congo est un vaste pays forestier qui est devenu un lieu de rassemblement pour de nombreux traitements, y compris la première utilisation de vaccins qui ont permis de contenir une épidémie déclarée en juillet, quelques jours avant la découverte de la dernière flambée. Les résidents de Goma savent que les percées médicales ne signifient pas grand-chose si des mesures simples ne sont pas prises sur le terrain.
Je me suis lavé là-bas, c'est certainement pour me prévenir contre la maladie. Parce que ça fait un moment où nous sommes attaqués par la maladie d'Ebola. Alors pour nous prévenir contre cette maladie, il nous est impérié de nous laver la main. C'est pourquoi je le fais aussi.
Les agents de santé vérifient également la température des résidents dans les lieux publics et à l'entrée de la ville. L'hôpital a mis en place un laboratoire mobile pour tester les cas suspects.
C'est à l'arrivée du pays, c'est pour le prélèvement de la température. La température supérieure à 38 degrés, ça c'est un cas isolé. Nous l'amenons avec courtoisie dans la salle d'isolement et là on va commencer avec la consultation.
L'Ebola provoque des diarrhées, des vomissements et de la fièvre hémorragique et peut se propager par les fluides corporels. Précautions sanitaires, réduction du contact physique, économie au ralenti, un tableau habituel au Congo qui a connu 10 épidémies d'Ebola depuis la découverte du virus sur la rivière Ebola en 1976, tuant au total quelques 900 personnes.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
Et direction le Burkina Faso, où depuis le 20 mars 2018, l'interdiction de transport de personnes par les tricycles est en vigueur à Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays. Mais la police a du mal à faire respecter la mesure, car les conducteurs refusent de s'y conformer, créant des tensions entre les deux parties. Reportage du correspondant de VOA Africa Bobo, Alidou Ouedraogo.
C'était une chaude ambiance ce jeudi devant le stade Wobi de Bobo-Dioulasso. Des conducteurs de tricycles surexcités, drapeau du Burkina en main pour certains, lance-pierres ou branches d'arbres pour d'autres, dans des slogans hostiles à la police, manifestaient leur mécontentement. Dans une course-poursuite avec la police mercredi soir, un de leurs a vu son engin perforé par balle. Conséquence, une passagère blessée à la cheville. Ces conducteurs de tricycles se disent tout simplement scandalisés.
Ce qu'ils ont fait là, c'est pas raisonnable. C'est une honte pour le Burkina Faso.
Si l'armée est incapable d'aller lutter contre les djihadistes, c'est en ville qu'il faut tirer les gens. Ça montre la faiblesse de l'armée.
Le commissaire principal de police de Bobo-Dioulasso, Oumarou Sonien, explique les circonstances de l'incident.
Une équipe qui était en mission pour vérifier une information qui nous est parvenue, que l'équipe a filé un conducteur de tricycle et quand l'équipe a vu le contrôle, il a refusé donc s'est déféré au contrôle. Bon, c'est dans la lutte pour l'arrêter qu'un coup accidentellement est parti. Voilà. C'était un incident, ce n'est pas un tir qui a été sciemment fait d'ailleurs.
Ces conducteurs de tricycles affirment que le transport de personnes est une question de survie.
Ils n'ont qu'à arrêter d'empêcher les gens de chercher l'argent dans la droiture en fait. Chacun a le droit d'emprunter ses moyens de transport dans n'importe quel pays. C'est pas au Burkina seulement que les tricycles existent. Dans tous les pays, tricycles, taxis, motos, quoi là, ça existe. Si vraiment nous faisons ce travail-là, c'est pas du vol que nous faisons. On fait ça pour pouvoir faire quelque chose.
Le commissaire principal de police de Bobo-Dioulasso, Oumarou Sonien, termine en ces termes.
Dans certains pays, il y a des tricycles qui ont transporté des agents explosifs, qui ont explosé dans des milieux publics ou qui ont fait beaucoup de victimes. Donc, il n'est pas exclu que ce mode opératoire soit aussi utilisé au Burkina Faso. Donc, quand les forces de défense et de sécurité veulent faire leur travail, je pense que les gens n'ont qu'à les laisser tranquillement faire leur travail.
Alidou Ouedraogo, Bobo-Dioulasso, pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso. Avant le début du pèlerinage annuel du Hajj à la Mecque, les fidèles musulmans se sont rendus à la grande mosquée pour la prière du vendredi. Selon le Coran, les musulmans âgés de plus de 18 ans doivent accomplir ce pèlerinage au moins une fois dans leur vie, s'ils en ont les moyens. C'est un acte qui représente un rite de passage essentiel pour les musulmans et aussi un défi logistique massif pour les autorités saoudiennes qui doivent gérer des foules colossales. Azuma Compaoré.
Après les prières autour de la Kaaba, le sanctuaire le plus sacré de l'islam, les pèlerins ont effectué aujourd'hui la grande prière du vendredi. C'est l'un des moments attendus par les fidèles musulmans à 2 jours de la marche vers Médine, qui marquera le début du Hajj, le devoir religieux de 5 jours. Rachida Slimani vient d'Algérie.
Je remercie d'abord Dieu de nous avoir permis de visiter sa maison. Nous le remercions de sa bénédiction. S'il y a une chose que nous désirons dans la vie, c'est de faire le Hajj.
Raja Amjad Hussein, lui, vient du Pakistan.
Je ne peux pas l'expliquer, je n'ai pas de mots. Pour tout musulman, c'est le plus grand rêve de la vie de voir la Kaaba et de prier pour soi-même, pour ce pays et pour toute la nation musulmane.
Cette année, les températures élevées ont forcé de nombreux pèlerins à se réfugier dans des endroits où la température est moins exténuante, ce qui explique en partie le nombre réduit de fidèles à la prière du vendredi. Mais qu'à cela ne tienne, la journée est restée pour beaucoup un temps fort, rempli d'émotions. Pour Famé Diouf, pèlerin du Sénégal vivant à Amsterdam, c'était une expérience inoubliable.
C'est vraiment impressionnant. Quand j'ai vu la Kaaba, vraiment, j'étais comme une plume. J'étais tellement contente que je ne sais pas comment je vais faire. J'ai pleuré.
Le pèlerinage annuel du Hajj, qui va cette année du 19 au 24 août, est l'un des plus grands rassemblements religieux au monde. Près de 2 millions de pèlerins sont attendus sur les sites les plus sacrés de l'islam.
Les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Une nouvelle heure a sonné. Faut pas que tu sois étonné du plaisir que je vais te donner. Almighty God a encore frappé avec une inspiration. Voyez, voyez, comme on le dit ici chez nous. Aux hommes masiques, tu vas bouger. Mama Africa va danser.
Aïe, aïe, aïe,
petit regret, c'est amusé.
Aïe, aïe, aïe,
la nouvelle. C'est la danse de tous les amoureux.
Aïe, aïe,
bébé, quand tu te tiens auprès de moi, mon cœur me fait digidiriser. La plus belle fleur de mon jardin, sweetie, I can only live without you. Ne t'éloigne pas de moi, je ne peux pas vivre sans toi, sinon je suis foutu. Ne t'inquiète pas,
yeah.
Je saurai prendre soin de toi,
yeah.
Mon cœur ne va que pour toi,
yeah.
Mais enfin tu seras la mama, yeah. Mama, oh jolie, viens danser. Aïe, oh, aïe, oh, aïe, oh. Béni de désir d'amuser.
Aïe, oh,
yeah.
Aïe, oh,
c'est la danse de tout.
Et oui, le vendredi, tout est permis. On s'est quitté avec Bébé Philippe. Merci de nous avoir suivis. Merci à Georges Léonard Sagnou à la mise en onde, Sidrak Franklin à la console, Raissa Girondin à la présentation. Vous restez connectés sur Facebook, sur notre site internet voafrique.com pour plus d'actu. Excellente suite de programme.
Pour monter le niveau, tout le monde m'a pris pour un Django. Qu'est-ce qui se passe d'abord?